Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laurence Lemouzy.
2009 a été une année de débat sur l'évolution des collectivités territoriales. Plusieurs rapports parlementaires et aussi les travaux de la commission Balladur ont avancé des pistes de réforme pour nos institutions territoriales et leurs compétences. Le Parlement examine en ce moment même les projets de loi du gouvernement qui veulent donner un nouvel élan à la France décentralisée. Quels sont les enjeux institutionnels et politiques de cette réforme? Quelle France territoriale se prépare à travers les mesures annoncées? Autant de questions autour desquelles nous allons converser avec notre invité Jean-Pierre Balligan, qui est député de l'Aisne, maire de Vervins et coprésident de l'Institut de la décentralisation. Jean-Pierre Balligan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, si je peux le dire ainsi, un élu expert de la décentralisation dans le cadre de l'Institut de la décentralisation. Vous avez présidé des groupes d'études qui portait sur des enjeux clés de la décentralisation. Je pense à la clause générale de compétences, on va y revenir, à la question de la démocratisation de l'intercommunalité. Et à l'Assemblée nationale, vous êtes l'auteur d'un rapport récent avec votre collègue Mac Laffineur sur les relations financières entre l'État et les collectivités territoriales. Donc ma première question va s'appuyer aussi sur cette expérience et le recul que vous avez. Quel est votre bilan de la décentralisation 27 ans après les lois de fer et qu'est-ce qui a fonctionné selon vous ou qu'est-ce qui nécessite aujourd'hui d'être réformé?
D'abord, le bilan, pour reprendre une formule un peu galvaudée, c'est vrai, est globalement positif. Le bilan de la décentralisation, c'est en fait un formidable appel à la responsabilité des collectivités pour moderniser la France. Ce que l'État n'était pas capable de faire correctement, je pense par exemple à la construction des collèges, à la construction des lycées. On avait des paillerons avant la décentralisation. Si on fait un petit retour en arrière, j'allais dire un flashback, mais ici ça serait pas convenable, mais un retour en arrière sur un demi-siècle, on voit bien l'état de nos collèges où on avait des CES paillerons, comme on les appelait à l'époque, à peu près partout, des lycées avec la montée, bien entendu, des effectifs dans les lycées. On avait des lycées dans des états pitoyables. L'État était incapable de générer, et en plus, il faisait de très vilains bâtiments. L'architecture était lamentable, standardisée, etc. Tout ça, ça a complètement changé. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel chef-lieu de canton de la France de gauche, de la France de droite, de la France du centre, de tout ce que vous voulez, il y a une caractéristique, c'est qu'il y a une architecture qui est respectée, il y a des choses qui sont d'ailleurs quelquefois très contemporaines, et surtout il y a de bonnes conditions d'accueil des élèves, des enfants, des adolescents, et des bonnes conditions de travail pour les enseignants et les personnels de service. Donc je prends cet exemple-là parce qu'il est très caractéristique. Si on fait une comparaison avec, bien entendu, l'état de l'université française qui est resté de compétences strictement état, il suffit de regarder l'état lamentable de nos universités et des conditions, cette fois-là, des jeunes qui sont scolarisés dans ces établissements. Nos grandes universités, même quelquefois les plus célèbres, sont incapables d'avoir des amphithéâtres de contenu correct, etc. On voit bien qu'il n'y a pas photo en la matière, alors que l'effort était bien sûr beaucoup plus important numériquement. Il y a beaucoup plus de collèges que d'universités, beaucoup plus de lycées que d'universités. Donc voilà, globalement, c'est un bon bilan. Et on pourrait décliner ça dans une multiplicité. Mais il ne faut pas se contenter de dire voilà, tout est bien. Ce n'est pas vrai. Il y a deux, à mon avis, critiques majeures qu'il faut adresser à la décentralisation, non pas pour la condamner, mais pour essayer de la faire évoluer et de corriger, bien entendu. Et à mon sens, première critique, c'est une certaine confusion des pouvoirs. Je pense d'ailleurs que, pour donner une grille de lecture, il faut quitter le monde des experts, comme vous les appelez, c'est-à-dire des élus intellectuels organiques de la décentralisation pour faire à la Gramsci, mais essayer de se mettre du point de vue du citoyen. Mmh. Qu'est-ce que comprend le citoyen, voire l'élu lambda d'un conseil municipal, d'un petit village de France ou d'une petite ville de France? Vous voyez, il ne comprend pas grand-chose parce qu'il y a, c'est vrai, parce qu'en droit français, nous avons la clause générale de compétence, c'est-à-dire au terme de l'interprétation de la jurisprudence, c'est le droit d'agir en tout domaine qui a été dévolu à chaque niveau de collectivité, ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays d'Europe et même du monde. On a rarement... Mais chez nous, la commune a la clause générale de compétence, le département a la clause générale de compétence et la région qui est devenue une collectivité de plein exercice après les lois de décentralisation, en 85, eh bien, a elle aussi la clause générale de compétence. Ce qui fait qu'il y a une confusion des pouvoirs. Chacun agit, par exemple, en matière d'action économique. La commune agit. L'intercommunalité, qui est un établissement public créé par les lois Jox de 92, puis Chevènement de 99, a aussi compétence en matière économique. Le département, qui n'avait pas compétence, s'est arrogé petit à petit de s'occuper aussi d'affaires économiques. Et la région, forcément, s'occupe, de par les textes de décentralisation, de l'action économique. Donc on a une vraie confusion des pouvoirs. Plus personne, pour rajouter un peu d'État et beaucoup d'Europe, puisque pendant pas mal d'années, il y a eu des moyens européens pour la reconversion des zones, des régions industrielles, etc., ou des régions rurales en affaiblissement. Vous avez une multiplicité, le citoyen ne comprend rien. Et la deuxième grille de lecture, à mon avis, toujours aux citoyennes, c'est la lisibilité citoyenne qui vient du qui fait quoi. Si on veut créer de la citoyenneté, les élus feraient bien de ne pas s'occuper que de l'ingénierie du montage de dossiers et de leur performance, puisque les collectivités sont plutôt performantes dans les montages de dossiers, mais s'occuper de ce pourquoi les élus sont là, c'est-à-dire d'abord pour être au service des citoyens et si possible de développer cette citoyenneté. Je crois qu'on voit bien qu'il n'y a pas de lisibilité citoyenne du fait du premier point que j'ai développé il y a quelques instants, c'est-à-dire de la confusion des pouvoirs, on peut même dire de l'usurpation de compétences, chacun voulant agir dans les domaines les plus nobles, bien entendu. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a une certaine critique qu'il faut faire, c'est simplifier la décentralisation pour lui donner une lisibilité. Non pas tout casser, parce que je pense que ça marche assez bien, la décentralisation, du point de vue de l'efficacité du montage de dossiers, mais essayer de faire que les citoyens s'y retrouvent, et peut-être dans des domaines nouveaux, je pense à l'intercommunalité en particulier, essayer de sacraliser par le suffrage universel la naissance, non pas la disparition des communes, mais du renforcement communal à travers un transfert de compétences qui exige un certain niveau d'habitants.
Alors, on a bien entendu simplifier la décentralisation pour lui donner plus de lisibilité, une lisibilité, de savoir qui fait quoi. De ce point de vue, la réforme qui s'annonce, les textes qui ont été déposés au Parlement, vous semble-t-il aller dans le bon sens? Et selon vous, quelle est la philosophie qui guide le gouvernement dans cette réforme? Est-ce que c'est cet effort de simplification de lisibilité?
Non, non. C'est là qu'on a une difficulté majeure. Il faut être honnête, en tout cas intellectuellement, lorsque il y a eu l'acte 2 de la décentralisation, c'est-à-dire les lois que M. Raffarin, à l'époque Premier ministre, a essayé de porter. Je ne partage pas les convictions politiques de M. Raffarin, mais M. Raffarin était un décentralisateur. Et donc, même si sa loi a été en partie handicapée par une épreuve de force avec les présidents de conseils généraux, avec le président du Sénat, etc., etc., il n'en demeure pas moins que la philosophie, c'était d'essayer d'octroyer plus de compétences aux collectivités et d'afficher d'ailleurs dans la Constitution elle-même le fait que la France était une république décentralisée. Mais les textes d'aujourd'hui, les quatre textes, les quatre projets de loi n'ont rien à voir avec tout cela. Il n'y a aucune dévolution. Qu'est-ce que c'est qu'une loi de décentralisation? C'est une loi de dévolution de pouvoir. Il n'y a aucune dévolution de pouvoir dans aucun de ces quatre textes. Pas une compétence en plus. J'ai pris l'exemple de l'université. Je ne parle pas de la gestion des personnels, je ne parle pas des programmes. Je parle, bien entendu, des bâtiments. Rien. Peut-être qu'il faudrait qu'on invente, d'ailleurs, dans un certain nombre de domaines. Moi, comme président de l'Institut de la décentralisation, c'est peut-être pas l'avis de mes amis politiques, mais moi, je serais, par exemple, pour que l'enseignement technique soit plus en partenariat, voire même mis en place au niveau des programmes, j'entends cette fois-là, dans les régions par rapport à un certain nombre de filières économiques, bien entendu de recherche-développement dans tel et tel domaine, de manière à ce qu'on ait des personnels qui soit qualifié sur le plan technique par rapport au programme que vous avez développé dans telle ou telle région pendant 10 ans. Le Pays basque espagnol a fait ça de manière merveilleuse et a réussi à reconvertir une vieille région industrielle, la plus vieille région industrielle, avec un taux de chômage beaucoup plus bas que le reste de l'Espagne. Donc, et ça ne s'est pas fait par miracle, ça s'est fait parce que l'enseignement technique, et pas seulement la formation professionnelle, ont été dévolus, pouvaient être pris en compétence par les autonomies. Donc là, pour revenir au sujet, il n'y a rien de tout cela dans ce texte. Je pense même que c'est un texte de recentralisation. C'est-à-dire, l'idée n'est pas de donner du pouvoir, c'est de reprendre du pouvoir. Par cela, on accélère la confusion des pouvoirs. On invente un conseiller territorial, par exemple, qui va remplacer le conseiller général. J'étais président de conseil général. Qu'est-ce que c'est qu'un conseiller général ? C'est quelqu'un qui gère la proximité. Le conseil général, il a des compétences de proximité. Il gère l'APA, l'allocation personnalisée pour les personnes âgées. Il gère, bien évidemment, l'hébergement des personnes âgées avec le développement des maladies du vieillissement. Il gère ce conseil général, il gère les collèges, l'investissement, maintenant les TOS, le personnel de service, etc. Tout ça, c'est de la... Il gère les routes, il gère l'électrification, lorsqu'on étend des zones, des ZAC, ou des zones d'activité ou des zones d'habitation. On est dans la proximité. Et quand on va à la région, eh bien, c'est l'inverse. Il faut s'émanciper. Donc, le premier élu, le conseiller général, il doit être un élu qui a un ancrage territorial, parce qu'il fait du localisme. Et c'est bien qu'on ait des praticiens qui adaptent les textes nationaux. Localement. Mais quand on va à la région, on doit s'occuper des du développement de l'université, de la recherche-développement, des grandes communications matérielles et immatérielles de demain, si possible. Donc pas seulement des autoroutes et des TGV, mais aussi, bien évidemment, de tout le développement de l'Internet, des zones d'ombre qu'on a, parce que les territoires français sont hétérogènes et qu'aujourd'hui, l'accès à l'Internet, ça doit être un droit pour tout le monde. Le développement a des coûts beaucoup moins de ce type de matériel, cette fois-là pour les entreprises. Bon, tout ça, c'est quelque chose qui doit être porté par des élus qui s'exonèrent en quelque sorte du localisme pour pouvoir, bien entendu, dépasser cela. L'invention dans ce texte des conseillers territoriaux, où on va avoir le même élu qui fait le lundi et le mardi du localisme, le mercredi et le jeudi, qui va s'émanciper, mais le samedi et le dimanche, voire le vendredi, il va surtout travailler pour se faire réélire. Il n'est pas indigne de dire qu'un élu cherche à être réélu la fois suivante. Sa légitimité, il va la détenir du fait de tirer vers le bas les régions. Donc c'est une catastrophe pour la région, qui est déjà un nain politique, parce que la région, elle a aujourd'hui un quart de siècle de vie. Comme collectivité de plein exercice, comme collectivité territoriale, je pense qu'il ne faut surtout pas la départementaliser, voire même la cantonaliser au sens un peu plus large, puisque les cantons deviendront plus larges par les conseillers territoriaux.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette mesure, donc l'élection des conseillers territoriaux, c'est une tentative pour les regrouper peut-être un jour à terme au sein d'une seule et même institution qui serait issue de la fusion du département et de la région, et ainsi on aurait répondu à l'éternelle question, faut-il supprimer le département ? Est-ce que ce n'est pas une façon d'y arriver ?
Oui, c'est une thèse qui pourrait être avancée parce que c'est la thèse qu'avait vendue M. Fillon lorsqu'il était à la fin de la vie du RPR, si je me souviens bien, avant la naissance de l'UMP. Et c'était une de ses idées, c'est-à-dire d'avoir un seul niveau de collectivité. Simplement, je pense que ça ne me paraît pas bon. Je pense que le problème à venir, il est, à mon avis... Ou alors, ça serait possible si on disait, en fait, on va faire des grandes intercommunalités, on va leur donner une légitimité démocratique, on y viendra peut-être ultérieurement, et à ce moment-là, elles peuvent prendre ces intercommunalités plus puissantes qu'elles ne sont aujourd'hui, elles vont prendre les compétences des départements. Mais ça, c'est le rôle dévolu aux métropoles. Dans le rapport Balladur, il y avait, je crois, un élément fort, intéressant, qui est que la France ne s'est pas beaucoup occupée des villes, des politiques des grandes villes. Et il nous faut, hors Paris, des villes qui soient de niveau européen. Si Paris est une ville de niveau mondial, le reste du territoire est plutôt faible sur le plan européen. Même Lyon a besoin d'être conforté, ou Marseille, ou Lille, ou Strasbourg, ou Bordeaux, Toulouse, On a besoin d'avoir, je ne sais pas, 7 à 12 villes qui soient des villes qui seraient des métropoles, des agglomérations, donc des intercommunalités puissantes, intégrées, et puis concomitamment qu'il y ait la compétence, comme Paris l'a, du Conseil général, de manière à ce que ces villes aient bien des politiques sociales, par exemple, qui ne soient pas municipalisées, où vous avez dans la même agglomération l'hyper-richesse et l'hyper-pauvreté, etc. Donc ça, c'est, je pense, une bonne chose. Simplement, dans le projet de loi tel qu'il a été déposé par le gouvernement, du fait des pressions, je suppose, des présidents de conseils généraux, on est déjà en retrait par rapport à la proposition Balladur sur le statut de compétence départementale dévolue à ces fameuses métropoles. Mais hormis ça, c'est bien. Et quelquefois, j'ai tendance à penser que le gouvernement, je n'oserais pas dire le président de la République, mais ce n'est pas impossible que ce soit le président de la République, vu la conception qu'il a du chef du gouvernement et de son affaiblissement, c'est peut-être de n'avoir un dialogue institutionnel qu'avec les grandes villes. Le reste ne compterait pas. C'est possible, hein. Il faut faire très attention parce que le jardin à la française, qui est quand même une jolie caractéristique de ce pays. On peut dire qu'il a une surreprésentation de la vie associative, il y a une surreprésentation politique, il y a une surreprésentation des territoires par rapport aux habitants, etc. Tout cela est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, c'est ce qui fait la richesse de cette France si bien entretenue jusqu'au dernier village. Donc, alors on peut dire qu'on n'a plus les moyens de cela. Mais je pense qu'on peut faire des économies, il faut en faire, sans démolir absolument tout. J'ai peur que ce texte soit un texte qui soit guidé par une philosophie qui, en fait, n'aime pas les corps intermédiaires. On a déjà vu avec les médias, puis télévisuels. En ce moment, nous verrons dans les mois qui viennent avec les journaux, la presse écrite. Nous avons vu avec la justice. Il est possible qu'on se dise le dernier grand contre-pouvoir qu'il y a en France aujourd'hui, ce sont les institutions locales, territoriales, qui, par un concours de circonstances, ça n'est qu'un concours de circonstances, ne sont pas majoritairement de la couleur du président de la République. Il faut faire attention de ne pas démolir cet équilibre des pouvoirs, puisque quelque part, les collectivités territoriales sont un contre-pouvoir, puisque le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat sont de la même couleur politique. Donc essayons d'avoir un équilibre des pouvoirs, et je pense que d'affaiblir de manière substantielle ces pouvoirs me paraît quelque peu dangereux, d'autant plus que je ne dis pas les choses de manière abstraite. On pourrait dire, mais ces textes ne sont pas encore adoptés. Mais concomitamment, il y a dans la loi de finances la disparition de la taxe professionnelle, l'affaiblissement des ressources des collectivités, quel que soit le niveau. Donc on voit bien que le télescopage entre le texte institutionnel, enfin les quatre textes institutionnels, et de l'autre côté, la réforme fiscale de la fiscalité locale, c'est l'article 2 de la loi de finances qui fait disparaître la taxe professionnelle au profit d'un autre système. Il ne faut pas que ça conduise tout ça à un affaiblissement des collectivités. Sinon, faisons quand même très attention. C'est un moment particulier, c'est pour ça que je pense qu'on est plutôt dans une recentralisation que dans un mouvement de décentralisation.
Vous-même, comment réagissez-vous à la suppression de la taxe professionnelle ? C'est une façon de reprendre du pouvoir, de laisser la fiscalité liée aux impôts ménages du côté des collectivités territoriales, et l'État se réserve les impôts plus dynamiques ? Ça participe de ce mouvement ?
Oui, je ne sais pas s'il faut être aussi critique. Je crois que, en fait, ça participe d'un affaiblissement de l'action publique locale. C'est-à-dire, l'action publique au niveau national a fortement baissé. On voit bien, on remplace un fonctionnaire sur deux. Je suis du département de l'Aisne, 530 000 habitants, département très rural. Il est clair que de ne plus avoir de direction départementale de l'agriculture et de la forêt, ça fait un peu drôle en ce moment. On n'a jamais vu ça. Les DDE, les directions départementales de l'équipement dans toute la France, ont disparu. Tout ça, aujourd'hui, ça se reconcentre au niveau régional. C'est le choix qui a été fait par l'État d'une réorganisation en vertu, bien évidemment, d'un processus de réforme managé d'après ce qu'on m'a dit par McKinsey, ce qui montre la force des cabinets anglo-américains aujourd'hui dans le processus de modernisation administrative de la France. Ça me paraît assez intéressant. Et en tout cas, on voit bien les conséquences de la RPP sur l'administration d'État dans les territoires. où l'administration de l'État disparaît. Et donc, je pense qu'il y a un deuxième projet aujourd'hui. Le deuxième projet, c'est de faire baisser l'action publique locale, territoriale. Pourquoi ? Pour faire diminuer les impôts. Parce que si vous avez moins de services, ça vous coûte moins cher. C'est M. de la Palice qui dirait ça. Et je pense que c'est ça le raisonnement. C'est-à-dire qu'en fait, derrière tout ça, c'est un raisonnement très libéral, thatchérien. Même il est marqué dans l'histoire européenne du libéralisme. C'est Mme Thatcher qui est la chef de gouvernement qui a attaqué le plus les collectivités locales, en l'occurrence en Grande-Bretagne, au nom du libéralisme, au nom de la baisse d'impôts. Et on est dans la même philosophie aujourd'hui. Donc les impôts d'État baissent parce qu'il faut que les gens qui gagnent de l'argent paient peu, le bouclier fiscal, etc. Et concomitamment, on a une tentative pour faire baisser la fiscalité. Alors c'est une manière de prendre... Alors on fait baisser la fiscalité entreprise. Là, vous me direz, ah, c'est pas très honnête ce que vous dites. Sauf qu'une fois qu'on fait disparaître la matière fiscale entreprise sur les collectivités, il est clair que pour les collectivités, il ne restera plus que les impôts ménages, c'est-à-dire la taxe d'habitation et le foncier bâti pour les propriétaires. Et donc voilà, c'est la quadrature du cercle en quelque sorte.
On va revenir dans le jardin à la française. Je sais que vous avez travaillé beaucoup sur l'intercommunalité et que vous constatiez qu'elle souffrait d'un déficit démocratique. Et au travers d'une proposition de loi, vous défendiez l'idée d'élire au suffrage universel direct le président de l'intercommunalité. Alors, où en est-on est-ce que c'est une initiative qui se retrouve dans les textes et est-ce que l'intercommunalité doit rester dans un espace de consensus? C'est ce qu'on attend beaucoup. On l'entend beaucoup de la part de vos collègues élus.
Les élus, dont je fais partie, mais ce n'est pas parce qu'on est élu qu'on doit obligatoirement ne pas avoir une réflexion républicaine, je dirais. Il y a un paradoxe français aujourd'hui. Le paradoxe français, il tourne autour de la question de la légitimité communale et de la légitimité intercommunale. On dit, j'allais dire la vox populi, ça n'est pas tout à fait vrai, ça serait plutôt les patriciens, en quelque sorte, disent... Dans ce pays, eh bien, il faut qu'on puisse s'entendre. Il faut, un, que la commune ne disparaisse pas. Et deux, pour ce faire, il ne faut pas élire au suffrage universel les délégués siégeant dans les intercommunalités et les conseillers qui siégeraient au niveau intercommunal. Et troisièmement, il faut préserver l'entente cordiale, etc. Et on arrive à une anomalie, un paradoxe, presque une antinomie, assez incroyable, c'est qu'il y a des élections hyper politisées aujourd'hui en France pour les communes, jusqu'à des communes de 4-5 000 habitants, on politise quelquefois en dessous. Et puis quand on est au niveau de 30 000, 40 000, 100 000, 200 000, 300 000 habitants, on s'entendrait, il n'y aurait pas de débat devant les citoyens sur la question du transport, sur la question des impôts, sur la question de quel type de traitement des ordures ménagères on fait, quel type de transport collectif on met en place, quelle option on prend, etc. etc. Enfin, sur les choses essentielles du pouvoir, puisque en fait les communes n'ont plus le pouvoir aujourd'hui en France. L'essentiel du pouvoir... C'est-à-dire, l'apparence du pouvoir est toujours au niveau communal. Donc, on a des débats démocratiques pour une coquille vide, qui est de plus en plus vide, qui s'appelle la commune. Et la coquille qui est de plus en plus en train de se remplir, qui s'appelle l'intercommunalité, on n'aurait pas d'élection au suffrage universel et un espace qui serait hors des conflits sur ce qu'est une gestion de droite, voilà ce qu'est une gestion de gauche, voilà une gestion dynamique ou une gestion passive, etc., etc. C'est assez paradoxal et je pense qu'il faut lever cette question. Et on peut lever la question en élisant les exécutifs. Moi, j'ai proposé les présidents, mais ça pourrait être les exécutifs des intercommunalités au suffrage universel et en gardant une assemblée délibérante qui émanerait des communes. Ça serait un contre-pouvoir communal, au sens de la multiplicité des communes, par une séparation entre le délibératif, d'une part, et l'exécutif, d'autre part. Ce qui existe d'ailleurs dans beaucoup de démocraties, mais pas chez nous. Chez nous, il y a la confusion qui vient de la Troisième République, qui a été une grande réussite sur ce plan, entre le pouvoir exécutif du maire, parce qu'il représente l'État, pour l'État civil, la police, par exemple, et puis, d'autre part, le fait qu'il est président de l'Assemblée délibérante. Voilà, c'est cette confusion-là qui n'a pas lieu d'être, à mon avis, pour l'intercommunalité. Et je pense que peut-être ça serait bien de tester la séparation entre l'Assemblée délibérante, d'une part, et puis l'exécutif qui serait élu au suffrage universel, soit nominalement si ça n'est que le président, si c'est toute l'équipe, voilà, toute l'équipe de l'exécutif.
Dernière question qui s'inscrit dans ce prolongement, Jean-Pierre Balligan. Aujourd'hui, on constate que lorsqu'on gère un village de 500 habitants ou lorsqu'on gère la ville de Strasbourg, par exemple, ce qui ne correspond pas à la même chose, la gestion, les règles relèvent pourtant de mêmes lois. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait possible de décider et d'agir selon un principe aussi de différenciation territoriale ? Est-ce que ce serait là un risque de rupture de l'égalité républicaine ?
Non, bien sûr que non. Il n'y a pas de risque. Enfin, tout le monde sait dans ce bon pays de France que l'uniformité, qui est la caractéristique de la République une et indivisible, n'a pas permis le développement de l'égalité. Faut peut-être avoir l'honnêteté de le reconnaître. Donc, on peut très bien avoir des différenciations territoriales. Je pense que sur ce plan, d'ailleurs tout à l'heure j'ai dit que dans le rapport Balladur, il y avait quelque chose d'intéressant qui était l'idée de métropole, de ville-métropole. C'est une manière de créer l'hétérogénéité territoriale. Parce que, ipso facto, on va prendre un exemple, l'agglomération de Lyon, vu sa puissance de la communauté urbaine, la Courlie, devient une métropole ayant les compétences de la ville, de l'agglo et du département réunis. Ipso facto, le département du Rhône devient une sorte de petit département rural. On aurait donc quelque chose de totalement... D'ailleurs, ce qu'il faut garder du département du Rhône, à ce moment-là, c'est une vraie question. Donc, on voit bien qu'il y a cette idée, et je pense que c'est une bonne idée. Il n'est pas question que, à contrario, dans des départements très ruraux, où nous avons des villes, par exemple, de 50 000, 60 000 habitants pour la plus grande... Un département de 500 000 habitants, par exemple, c'est impossible. Et vous avez 500 ou 600 ou 800 communes, c'est impossible d'avoir ce type de scénario. Donc il faut reconnaître le bien fondé, par exemple, d'un conseil général pour ce type de département, pour faire la péréquation. Et de l'autre côté, le bien fondé d'avoir des villes métropoles pour donner une attractivité à la France qui ne soit pas que celle de l'agglomération parisienne.
Jean-Pierre Balligan, merci beaucoup d'être venu à notre rencontre pour mieux nous éclairer sur les enjeux de cette réforme. Je rappelle également que vous pouvez télécharger cette émission sur le site de Canal Académie. D'autres émissions sur les territoires sont accessibles, donc n'hésitez pas à les écouter. Merci et à bientôt pour un nouvel éclairage sur les territoires et aussi pour suivre les développements de cette réforme territoriale. Merci Jean-Pierre Balligan.
Merci à vous.